Alors, parle.
Un, deux, trois.
Alors, dis-moi, comment est-ce que présentez-vous en quelques mots? Comment est-ce que vous vous appelez? Quel âge vous avez? Pour qui est-ce que vous travaillez et où?
Je m'appelle Rebecca Blackledge, j'ai 27 ans. Je travaille au Burundi pour une organisation qui s'appelle Catholic Relief Services, donc qui est une ONG américaine catholique.
En quoi consiste votre travail exactement, concrètement?
Je suis responsable du département des urgences et donc on est censé répondre à toutes les urgences comme ça l'indique. Donc lorsqu'il y a un déplacement de population ou lorsqu'il y a des inondations pour des causes naturelles, on intervient avec des non-vivres, c'est-à-dire qu'on fait des distributions d'articles. Essentiellement ménagers comme le savon, le bidon, les couvertures, les casseroles et des bâches qui sont surtout utilisées lors des saisons des pluies.
Mais qui est votre population cible, en fait, à qui s'adresse cette aide
Ben,
exactement?
c'est surtout, en fait, nous, on a trois catégories de population de bénéficiaires. Donc, la première, c'est les personnes déplacées suite à l'insécurité au Burundi. Donc les personnes déplacées, les personnes très très vulnérables, ce qui fait que cette catégorie de personnes englobe beaucoup beaucoup de gens, ce qui fait que c'est très difficile pour nous de correctement définir qui vont être les bénéficiaires, mais on les englobe sous le terme de vulnérables. Et la troisième catégorie, ce sont les personnes réfugiées qui se trouvent par exemple au Rwanda ou en Tanzanie et qui vont rentrer au Burundi, mais qui n'ont pas de statut de réfugié officiel, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir eu une carte de réfugié par le HCR. Et donc ces personnes-là sont estimées au nombre de 200 000 par exemple en Tanzanie, sans statut légal, donc qui sont pas reconnus par le HCR en tant que réfugiés et qui ne peuvent pas être assistés lors de leur retour au Burundi par le HCR, ce qui fait que nous on va les assister.
Et ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles reviennent en ce moment? Ce sont des Burundais qui reviennent.
Ouais. Des Burundais, mais les Burundais qui se trouvent en Tanzanie sont en train de rentrer en ce moment parce que le gouvernement de Tanzanie n'est pas très accueillant en ce moment. Ce qui fait qu'ils ont réduit les quantités de rations alimentaires dans les différents camps. Et les personnes qui sont en dehors des camps et qui sont en train de travailler plus ou moins d'une manière plus ou moins officieuse sont plus ou moins harcelées par les autorités pour rentrer. La Tanzanie ne souhaite plus du tout avoir 200 000 personnes sur son territoire comme ça, qui n'a pas du tout de statut, donc qui est vraiment en train d'essayer de les pousser. Donc, il a été décidé apparemment que le Burundi et la Tanzanie obtiendraient, enfin, définiraient un type d'accord pour s'assurer que ces personnes-là vont être rapatriées. Mais ça pose tout un problème en termes de, puisqu'ils n'ont pas de statut légal, comment est-ce qu'ils vont être rapatriés par le HCR? Parce que le HCR, le temps de correctement savoir s'ils sont des réfugiés ou pas, ça prend beaucoup de temps pour avoir suffisamment de preuves, parce que le réfugié est censé dire. Voilà, je suis partie à tel moment, telles sont les preuves qui peuvent vous montrer que mon statut est légitime. Et donc, du coup, il y a très très peu de gens qui vont passer par tout ce processus et le HR non plus n'aura pas avoir les capacités de répondre aux demandes de ces 200 000 personnes. Donc, ils sont en train de rentrer et nous, on va pouvoir les assister.
Et les Burundais donc qui se sont réfugiés au Rwanda et qui retournent maintenant au Burundi, quelle est leur situation? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis au Rwanda et pourquoi est-ce qu'ils reviennent maintenant?
Je pense qu'ils sont partis au Rwanda pour les mêmes raisons. En fait, il y a deux types de personnes qui sont réfugiées au Rwanda. Il y a la catégorie de réfugiés politiques qui ont fui le Burundi parce qu'il y avait une insécurité assez prononcée dans toutes les provinces du Burundi jusqu'à encore il y a encore 2 années de ça. Et il y a les réfugiés, mais on ne parle pas vraiment en termes de réfugiés dans ce cas-là, mais les personnes qui fuient le Burundi pour des raisons économiques. Et il y a beaucoup de personnes burundaises qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, donc au Rwanda, des provinces du nord-ouest, parce que ces provinces-là ont souffert ces dernières saisons culturelles d'un cruel manque de récoltes. Ce qui fait qu'ils se sont exilés au Rwanda en espérant avoir des conditions de vie un peu plus décentes. Donc ces personnes-là qui sont parties du Burundi pour des raisons économiques, pour le moment, ne vont pas rentrer parce qu'il y a très très peu de chances pour que les récoltes soient satisfaisantes cette saison-là, enfin la saison en cours qui va commencer. Donc pour le moment, il y a de fortes chances pour qu'ils restent au Rwanda. Par contre, les personnes qui étaient déplacées au Rwanda pour des raisons de sécurité vont commencer à rentrer maintenant que la paix semble être obtenue au Burundi.
Justement, on assiste à l'investiture du nouveau président. Ça met vraiment cette investiture fin au processus de transition démocratique au Burundi. On ne parle plus désormais de recherche de la paix, mais de reconstruction du pays. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce passage? Est-ce que la paix est vraiment là? Est-ce que le pays, le Burundi, est un exemple pour le reste de l'Afrique?
Bon, pour répondre à la première question sur... est-ce que la paix est au Burundi? Sur les 17 provinces du Burundi, il n'y en a plus que 3 qui souffrent encore d'insécurité de manière assez répétitive. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de paix dans l'ensemble du Burundi, enfin pas d'après moi. Ceci dit, le seul groupe rebelle qui persiste à se battre et à rester dans le maquis, c'est une toute petite poignée d'hommes. Et donc, il y a très très peu de chances pour qu'ils continuent à combattre comme ça, puisqu'ils n'ont pas les ressources pour obtenir gain de cause, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense pas que le Burundi. Je pense que le Burundi en ce moment est en train de connaître une paix toute relative. Et d'après moi, il y a fort peu de chances pour que ça reparte comme ça a pu partir il y a quelques années encore, où il y avait eu de nombreuses discussions entre le groupe rebelle, le FDD, qui était majoritaire dans le pays. Là, le FDD a accepté de rendre les armes déjà depuis 2004, fait partie du gouvernement et. Le président investi, c'est l'ancien leader du FDD, donc de ce mouvement rebelle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que la paix est assurée dans la mesure où le groupe rebelle, maintenant majoritaire au pouvoir, est soutenu par l'ensemble de la population. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que les anciens dirigeants refusent de voir leur pouvoir diminuer et donc prennent les armes et que l'armée soutienne ses anciens dirigeants. Mais ça, il y a peu de chances pour que ça arrive de la même manière puisque maintenant l'armée est intégrée, c'est-à-dire qu'il y a les anciens rebelles qui font partie de l'armée. Donc d'après moi, c'est une situation qui laisse place à beaucoup d'espoir, même s'il y a encore cette petite poignée d'hommes qui continue d'avoir des exactions assez violentes assez fréquemment.
Les ONG internationales sont très impliquées au Burundi. On peut dire qu'elles ont contribué aussi à la paix et vont contribuer à la reconstruction. Vous, comment est-ce que vous êtes au courant des camps de réfugiés? Comment est-ce que, sur quel réseau est-ce que vous vous basez pour travailler?
Nous sommes donc une organisation catholique. Donc, de fait, on travaille beaucoup avec les paroisses. Les paroisses burundaises. Et donc, c'est un immense réseau qui nous permet d'avoir accès aux personnes les plus vulnérables et d'une manière qui est légitime. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres ONG qui s'appuient sur leur propre savoir et leurs propres compétences et leur connaissance du territoire mais et de la culture. Nous, on va s'appuyer sur des personnes qui sont... Je cafouille la Camille,
oui,
j'arrive pas à dire ce que je veux dire.
Parfaitement intégrées, qui connaissent
bien. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que les ONG... classiques arrivent par exemple au Burundi et vont s'implanter, mais vont s'appuyer sur leur staff local et sur leur propre expérience dans d'autres pays, etc., pour définir les besoins des gens et surtout pour cibler les bénéficiaires. Et donc, du coup, il y a un risque de cibler les gens d'une manière qui peut paraître un peu arbitraire, c'est-à-dire on estime que telle communauté a besoin d'être soutenue et on va intervenir, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire une étude approfondie sur l'ensemble des provinces du Burundi. Alors que nous, l'avantage de notre collaboration avec les différentes paroisses, c'est que les paroisses sont implantées dans toutes les communes du Burundi, donc dans toutes les provinces du Burundi, et ont une connaissance très très approfondie de la situation et des besoins des gens sur les collines. Donc le simple fait de travailler avec ces différentes paroisses, on a un accès direct aux populations vulnérables et un accès beaucoup plus facilité que si nous devions nous reposer uniquement sur nos propres connaissances du pays. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est très clair.
Donc, on travaille avec les paroisses systématiquement. Après, tu fais des...
Le Burundi a achevé son processus de transition démocratique. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'exemple pour le reste de l'Afrique ?
Je pense qu'effectivement, c'est... Au niveau des Grands Lacs, en tout cas, c'est très symbolique que le Burundi arrive maintenant, au bout de 12 années de conflit civil, à atteindre un stade de plus ou moins acceptable au niveau démocratique et atteigne une situation stable au niveau sécuritaire.
Pourquoi est-ce que c'est au niveau des Grands Lacs par rapport aux autres pays
ouais,
des Grands Lacs ?
Par rapport aux autres pays.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que le Congo souffre d'une instabilité chronique et risque l'implosion à tout moment, surtout avec surtout dans l'est du Congo, avec les différentes milices que l'ONU n'arrive pas à désarmer. Et aussi au Rwanda, dans la mesure où il y a encore beaucoup d'anciens rebelles hutus qui sont au Congo et qui représente une menace pour la stabilité du Rwanda et aussi une menace pour la stabilité du Burundi et aussi une menace pour la stabilité du Congo. Ça, c'est un deuxième point. Et ce qui contribue aussi à l'instabilité dans les Grands Lacs, c'est aussi le fait que le Rwanda envahisse assez régulièrement le Congo. Le Congo, donc, c'est vraiment une région très, très instable et c'est important qu'il y ait au moins un pays comme le Burundi qui s'en sorte. Et effectivement, à ce niveau-là, on peut espérer que ce soit un exemple et que ça a un impact positif sur les pays limitrophes. Ceci dit, il faut relativiser dans la mesure où le Burundi, c'est quand même un tout petit pays qui a seulement 6 millions d'habitants et que ça aurait été désespérant si on n'avait pas pu achever une transition politique. Maintenant, ce qui reste important, c'est d'assurer le développement économique de ce pays. Donc, on pourra effectivement parler d'exemple une fois que le Burundi aura atteint un stade démocratique et économique avancé.
Et pour atteindre un stade démocratique, surtout économique avancé, il faut qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment va se passer la reconstruction ? Quelles sont les priorités ? C'est un pays très rural, en fait, le Burundi.
C'est une question très difficile. Oui, comme vous l'avez dit, c'est effectivement un pays rural qui est dominé par une agriculture de subsistance, où de nombreuses écoles ont été détruites par la guerre, de nombreux centres de santé ont aussi été détruits. Donc il me semble que pour que la reconstruction aboutisse à un développement économique, il faut que l'État soit en mesure d'investir de l'argent dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'éducation. Mais aussi s'assurer qu'il y ait une certaine forme d'injection d'argent dans l'économie pour que les gens... soit en mesure, pour que les paysans soient en mesure d'investir cet argent, c'est-à-dire que ils aient une certaine forme de revenu qui leur permette de, par exemple, faire des ateliers de couture ou faire de la menuiserie ou d'autres choses que l'agriculture de subsistance. Et donc, il me semble que en transition, il va vraiment falloir que les ONG trouvent un moyen pour injecter de l'argent dans l'économie locale. Pour le moment, les ONG sont vraiment en train de réfléchir à la transition, parce qu'on est vraiment en train de passer de projets d'urgence à des projets maintenant de post-urgence. Cette transition risque d'être difficile parce que les ONG qui sont présentes au Burundi sont des ONG d'urgence. Et que les ONG de développement n'ont pas encore pris pied au Burundi. Donc les ONG qui ont tendance à avoir des projets mixtes aussi bien d'urgence et aussi bien de développement sont vraiment en pleine réflexion en ce moment sur les projets qui potentiellement pourraient contribuer au développement économique du Burundi, mais ça reste très difficile à définir et c'est très difficile dans la mesure où c'est effectivement une économie purement de subsistance. Donc on ne peut pas facilement retirer des paysans de leur milieu naturel comme ça en leur disant « Ok, vous cessez d'être paysans et vous allez devenir des entrepreneurs dynamiques et... » Dans la mesure où les gens ont une connaissance très très limitée des dynamiques du marché... C'est difficile, si vous voulez. Donc, j'ai du mal à vous dire comment et quel type de projets doivent être mis en place pour aboutir au développement économique, mais ce dont je suis persuadée, c'est qu'il faut absolument que les ONG réfléchissent à des moyens pour que directement de l'argent soit injecté dans l'économie. Mais ça, on fasse vraiment de transition. Une fois que l'argent est injecté, former les gens pour qu'ils sachent utiliser cet argent, si vous voulez.
En fait, on parle beaucoup de la reconstruction du Burundi via les ONG internationales. Comment la classe politique elle-même peut se prendre en main et peut prendre en main le pays ? Est-ce qu'on redoute des fléaux de type comme la corruption, ou etc. ?
Oui. C'est effectivement... beaucoup d'ONG sont très sceptiques par rapport à la capacité du gouvernement burundais de... prendre en main le pays et d'assurer un développement économique dans la mesure où les gens qui ont constitué le gouvernement sont des anciens rebelles qui n'ont aucune formation politique, une première raison. Et la seconde raison, c'est que ils n'ont pas au Burundi, il n'y a pas encore de bonne gouvernance, si vous voulez. C'est-à-dire que l'État n'est pas en mesure ou ne souhaite pas gérer l'argent d'une manière démocratique et transparente, ce qui fait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de risques de corruption, mais aussi que l'État ne soit pas en mesure de gérer un afflux massif de capitaux. C'est-à-dire que là, il y a la Banque mondiale qui va injecter à peu près 120 millions de dollars sur une période de 2 années au Burundi. Et c'est une somme énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour un tout petit pays comme ça. Et c'est loin d'être sûr que le Burundi soit en mesure de faire face à une telle arrivée d'argent. Donc, il est sûr que des projets de développement sont conceptualisés, que... le Burundi réfléchit, le gouvernement burundais réfléchit à la façon dont il va falloir améliorer le système de santé, dont il va falloir améliorer le système éducatif, comment est-ce qu'on peut motiver les professeurs, motiver les médecins. Ils y réfléchissent, mais en même temps, il manque encore, il me semble, au Burundi, la maturité politique pour gérer le développement. Et c'est difficile pour des ONG qui travaillent depuis des années et des années de correctement concevoir des projets de développement et qui contribuent au développement. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile à l'échelle d'un État qui n'a pas, depuis de très très nombreuses années, développé une réflexion sur le développement économique. Et c'est d'autant plus difficile lorsque les dirigeants ne sont pas formés non plus. Donc le développement économique du Burundi à travers le gouvernement est tout à fait souhaitable parce que les ONG n'ont pas la vocation de remplacer l'État, est primordial, mais je pense que les débuts vont être très très difficiles et qu'il est très important que les ONG continuent d'être présents pour soutenir ce processus, mais que aussi les Nations Unies soient très présents aussi et très vigilants. C'est-à-dire que il faut que le gouvernement burundais soit responsable de la façon dont l'argent va être utilisé.
Une dernière question plutôt sur vous. À quoi ressemble la vie quotidienne au Burundi? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité particulières ou bien est-ce qu'on peut se promener tranquillement dans la rue?
Se promener tranquillement dans la rue, ce n'est pas un problème du tout. C'est même très facile de se promener dans la rue. Même si on ne passe pas inaperçu du tout. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'être libre. Parce qu'on peut effectivement se balader dans la rue, aller faire ses courses à pied, etc. Ce n'est pas un souci. On n'est pas du tout dans une situation d'insécurité qui fait qu'on est menacé lorsqu'on marche dans la rue. Par contre, il est formellement interdit aux expatriés de prendre leur véhicule et se déplacer à l'intérieur du pays.
Et pourquoi ça alors?
Justement pour des raisons sécuritaires, c'est-à-dire que même si le conflit n'a plus lieu dans la majorité des provinces du Burundi, Bujumbura est encore dans la province de Bujumbura rural. Et ce qui fait que pour sortir de Bujumbura et pour se déplacer à l'intérieur du pays, il faut passer par la province de Bujumbura rural. Et il y a encore les rebelles dans la province de Bujumbura rural et donc il y a des risques qu'il y ait des attaques sur la route. Donc à ce niveau-là, on n'a pas du tout le droit de prendre notre véhicule. Donc à ce niveau-là, on manque cruellement de liberté, je dois dire. Mais mais sinon, on peut dans Bujumbura sans aucune difficulté se déplacer en voiture et à pied.
Votre maison?
Ma maison, elle est vaillamment gardée par deux gardiens. Elle se trouve dans un des quartiers dans le centre de Bujumbura, où les rues sont pavées, mais où toutes les maisons sont encerclées de murs, enfin emmurées. Ce qui fait que c'est pas du tout possible de voir les différentes maisons, puisqu'elles sont toutes entourées, et ce aussi pour des raisons de sécurité. Donc il y a même certaines maisons qui ont des fils barbelés sur leurs murs pour éviter qu'il y ait des bandits qui puissent cambrioler la maison.
Parce que pour conclure cet entretien, finalement, peut-être le problème que l'on redoute maintenant, c'est la délinquance.
Ouais, tout à fait. Mais maintenant que la situation politique s'est aplanie, il me semble que ce qui va vraiment être un problème au niveau sécuritaire au Burundi, ça va effectivement être la délinquance. Et ce pour plusieurs raisons, parce que les personnes qui étaient, qui faisaient partie soit de l'armée burundaise, soit des forces rebelles qui maintenant ont intégré l'armée régulière, toutes ces personnes-là ne peuvent pas être prises en charge en tant que militaires, et donc du coup, très nombreuses personnes vont devoir être démilitarisées, enfin retourner dans la vie civile. Or, ces personnes-là, depuis très nombreuses années, n'ont pas du tout développé des stratégies de prise en main ou
de reconversion.
Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où il est impossible pour eux de reprendre le travail de la terre parce que ça fait depuis 10 années qu'ils n'ont pas du tout exploité leur terre. Et le chômage est tel au Burundi qu'il est très difficile de trouver un travail. Donc, un des seuls moyens de subsistance qui peut paraître assez lucratif, c'est de cambrioler les maisons et de voler les voitures, etc. Donc, à ce niveau-là, ça va être très problématique dans les prochains mois et dans les prochaines années au Burundi. Et donc, de plus en plus, les expatriés sont en train de se protéger contre ça.
De plus en plus.
Ouais.
Alors pour finir sur une note d'espoir plutôt, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur votre expérience? Ça fait 2 ans que vous travaillez là-bas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail sert à quelque chose, est efficace?
Si, il est indéniable que... qu'on a un impact positif sur la population qu'on soutient et qu'on le ressent uniquement lorsque les gens, une fois qu'ils ont récupéré leurs articles après qu'ils soient distribués, on le ressent lorsqu'il faut remercier, rien que dans la lueur dans les yeux. Et là, effectivement, on se sent utile. On se sent effectivement moins utile lorsqu'on sait que les articles sont revendus sur le marché local ou qu'il y a des détournements qui sont faits par les différents administrateurs locaux. Là, c'est effectivement plus frustrant et on sent qu'on a un impact très amoindri par rapport à ce qu'on espérait.
Qu'on devient acteur aussi finalement,
ouais.
Ou qu'on crée de la délinquance finalement.
Oui, bah dans la mesure c'est-à-dire qu'on ne crée pas de la délinquance en tant que telle, mais on peut contribuer malgré nous à une situation d'insécurité. C'est-à-dire qu'on va faire des distributions dans des zones qui sont à risque, entre guillemets, aussi bien par l'armée régulière que par les rebelles du FNL. Qui sont à risque de pillage. Donc, le simple fait de faire une distribution dans une zone vulnérable peut mettre à risque les gens qui ont été soutenus et du coup solliciter la convoitise des rebelles ou des militaires. Et donc, il est assez régulier que, enfin, il est assez fréquent qu'il y ait des pillages suite à des distributions, par exemple, du PAM. Donc de vivres ou de CRS dans les non-vivres. Enfin, assez fréquent. Il arrive qu'il y ait des pillages et donc nous, on essaie sérieusement de considérer ce risque lorsqu'on intervient dans des zones. Donc s'il y a des risques de pillage, on n'intervient pas. Mais par la force des choses, les ONG ont contribué à la perpétuation ou du moins la pérennisation du conflit, puisque par exemple les rebelles n'avaient aucun intérêt de déposer les armes, puisqu'ils continuaient d'avoir accès à une aide humanitaire par procuration, et donc du coup avaient accès à une forme de richesse à laquelle ils n'auraient pas eu accès s'il n'y avait pas eu ce conflit. Donc c'est un cercle vicieux, et il faut que les ONG et les Nations Unies et conscience de ça dans leurs activités. Et nous, on essaie très, très régulièrement de faire un état des lieux des plus poussés de la situation sécuritaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence rebelle et que les militaires sont correctement chapeautés par leur hiérarchie pour éviter des débordements à ce niveau-là. Mais que ce soit les rebelles, aussi bien que les militaires, des pillages ont été faits par des deux côtés. Et je tiens à le souligner parce que le gouvernement burundais a eu trop facilement tendance à accuser les FNL des pillages, alors que les militaires s'en donnaient à cœur joie aussi.
Ok.
C'est pas vrai.